Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission qui vous fait un zapping de bons plans tellement excellent que vous n'aurez plus jamais le temps de vous ennuyer. Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, épisode numéro 11. Nous sommes à la mi-novembre, plus ou moins, hein, en fonction du moment où vous écoutez cet épisode. Je suis Patrick Béja, votre animateur, j'allais dire préféré, mais c'est un petit peu présomptueux quand même. Donc, peut-être que, si ça se trouve, votre animateur préféré dans cet épisode, ça va être, au hasard, Olivier. Bonjour,
oui,
Olivier, comment vas-tu?
Bonjour, mais très certainement, oui. Même si je n'ai pas ton talent, mon cher Patrick, je compte bien prendre ta place.
D'accord, alors
calife
peut-être
à la place du calife.
Peut-être, Olivier, mais
ah
mais
bah,
aussi...
il provoque comme ça.
Non, mais c'est vrai, j'ai un petit peu tendu la perche. Mais peut-être aussi Christophe. Christophe, peut-être seras-tu l'animateur préféré des auditeurs aujourd'hui.
Eh bien, bonsoir. Moi, je propose un truc à Olivier. Allions-nous pour faire tomber Patrick. Et puis après, je te ferai le...
L'épisode à moitié prix, non,
voilà.
C'est ça.
Voilà, d'abord on s'allie pour faire tomber Patrick et puis après je te fais la peau et je deviens calife à la place du calife.
Pas mal.
Voilà.
En même temps, je pense que ton plan, tu devrais pas forcément l'annoncer comme ça à l'avance.
Ah oui, mais attends, j'annonce mon plan, mais est-ce que c'est vraiment mon plan?
Ah, tu brouilles les pistes. Bien joué, on sent l'expert.
Les méchants qui parlent trop en général,
ils finissent mal, ouais.
C'est vrai. Bon, eh ben écoutez, on verra comment ça sera terminé à la fin de cet épisode. Et pour le début de cet épisode, c'est moi qui vais vous recommander une petite BD, ou plutôt un comic. Vous savez, le principe de l'émission, hein, c'est qu'on vous recommande trois produits culturels de grande qualité qu'on a adorés ou qu'on a plutôt bien aimés, et qu'on vous donne envie de les écouter, de les regarder, de les lire, etc., etc. Et pour, en l'occurrence, c'est un comic dont je vais essayer de vous donner envie de le lire. Il s'agit de X-23. Alors, c'est pas forcément un comic extrêmement connu de l'univers Marvel. C'est un personnage de l'univers Marvel. Et je tenais à parler d'un comic de l'univers Marvel spécifiquement parce que dans un épisode d'il y a quelques temps de Split Screen avec le camarade Olivier, le camarade Hervé et le camarade Philippe, nous avions parlé de Avengers, le film, et j'avais dit pendant l'épisode spécial que... Pour moi, les comics Marvel, au niveau du scénario et au niveau du développement des personnages, c'était quand même, pour le moins, généralement pas la panacée. Quand on avait un scénario de qualité, enfin, ce qu'on appelait une bonne histoire pour un comics Marvel, c'était juste que c'était pas trop mal pour une BD ou pour un comics. Et je reste convaincu que c'est bien le cas, hein. Ça avait provoqué des réactions un petit peu... épidermique de certains membres du podcast, mais je reste convaincu que quand même généralement les scénarios sont pas hyper bien écrits. En l'occurrence, X-23, c'est plutôt pas mal foutu et j'avoue que j'ai été totalement séduit par ces BD. Alors il y en a plusieurs. Le personnage donc c'est X-23. Il est apparu dans différents comics. C'est un personnage secondaire comme il y en a beaucoup. En l'occurrence c'est une expérience scientifique qui visait à reproduire les programmes, les capacités de Wolverine, hein, qu'on connaît bien, le personnage des X-Men, et elle n'a pas énormément de contact avec Wolverine, en tout cas dans ces BD dont je vais vous parler.
Il faut préciser que c'est une femme, non?
Oui, tout à fait, tout à fait. Donc c'est X-23, c'est même une toute jeune fille, c'est une adolescente qui a elle aussi des griffes, enfin des lames qui lui sortent des poings, mais aussi des pieds. Elle a son pouvoir de régénération, etc., etc. Ce qui est intéressant avec la BD X-23, il y en a, comme je le disais, plusieurs. Ça commence avec Innocence Lost, qui est simplement X-23 si vous la cherchez sur Comixology, l'app de téléchargement de BD que j'utilise généralement. C'est son origin story, donc on découvre cette expérience, donc qui est une expérience génétique. C'est un bébé au début de la BD, et elle est dans un laboratoire perdu au fin fond de je sais plus où, mais peut-être de l'Alaska. Et on, au cours de cette première BD, de ce premier arc narratif qui doit faire six BD, donc toute son enfance. Et on a pendant une bonne partie de la BD, la fille est une adolescente et elle est entraînée à tuer, bien sûr, comme on peut s'en douter, puisque c'est une expérience faite par des méchants qui veulent l'utiliser comme arme pour contrôler le monde. Et elle a évidemment une relation particulière avec la personne, le professeur qui lui a donné la vie, qui se substitue un petit peu à sa mère. Et puis elle évolue, etc. Je vais pas trop en raconter, mais on suit son parcours jusqu'à ce qu'elle s'échappe de ce laboratoire. Il y a ensuite Target X, qui est la suite directe de Innocence Lost, et on la retrouve ensuite dans le monde vivre sa vie. Il y a NYX où elle est à New York, donc New York X, et c'est les trois séries où on est vraiment centré sur X23 et qui forment une sorte de suite presque logique. Donc je répète, c'est Innocence Lost ou X23 tout court, Target X et NYX, New York X. Si vous cherchez X23, vous allez trouver, hein, il y a toutes ces séries disponibles un petit peu partout, dans vos bonnes librairies et sur Comixology. Il y a peut-être pas toutes sur Comixology, mais c'est pas trop difficile à trouver. Et encore une fois, la raison pour laquelle je la recommande, c'est que c'est l'une des rares séries, surtout la première partie, le Innocence Lost, où on a peut-être pas une histoire de génie, mais en tout cas un vrai développement du personnage, une vraie histoire plus que des séries de combats ou des séries d'excuses pour des combats, et un tout qui se termine. Là encore, c'est pas toujours le cas avec les BD Marvel classiques, hein, les séries du type X-Men, Avengers, etc., etc. Là, c'était une des arcs qui avait un début, un milieu et une fin. Il y avait six comics et ces six comics devaient dire une histoire complète. Donc voilà, c'est ma recommandation. X23, si vous êtes fan de BD, bien sûr, c'est pas non plus pour votre grand-mère, mais pour les fans, je pense que ça peut plaire pas mal.
Ok.
Vous connaissez X23 ou pas?
J'en ai entendu parler la première fois dans une petite émission qui s'appelle Geeking, je crois.
Et ah, ils en ont parlé dans Geeking.
Oui, et il me semble que c'était Audrey qui avait présenté X23, effectivement, dans toute une série en fait sur X23. Et moi, je connaissais pas ce personnage-là.
Ah oui, ça me dit quelque chose.
Mais alors, il me semble, à moins que je dise une bêtise, mais il me semble que dans un des X-Men, on voit X23 qui est interprété par une comédienne asiatique et qui se bat contre Wolverine à un moment.
Ouais.
Ouais. Ah oui.
Ouais, ils se battent dans le bassin où ils leur font les injections d'adamantium.
Voilà. Ah, c'est juste en passant 2 minutes, oui.
Ouais.
D'accord, oui. Bon, ouais, enfin, c'est pas représentatif.
Non, je pense
de la
que
BD,
c'est
hein.
pas du tout représentatif, ouais. mais effectivement, je connaissais pas ce personnage avant que ouais. et ça a l'air pas mal, ouais.
Ouais, franchement, elle est aussi dans différentes BD, elle apparaît par-ci par-là. Bon, c'est pas le personnage le plus inoubliable de l'histoire, mais dans cette série-là, elle est pas mal.
Est-ce qu'elle est aussi bourrine que peut l'être Logan, ou justement le fait que ce soit une jeune fille, ça apporte quelque chose
bah,
de
un
plus.
Petit peu, oui. Oui, bah, Wolverine, c'est vraiment le vieux routard, presque, ouais. Le vieil brut. Lui, ouais. C'est pas du tout ça. Elle vit presque sa condition malgré elle. C'est quelque chose qui lui est imposé. Donc, oui, effectivement, c'est pas tout à fait le même type de personnalité, c'est sûr. Ok. Eh ben, écoute, Olivier, c'est à ton tour.
Alors, moi, je vais vous parler d'un bouquin. Alors là, c'est pour les fans, hein. Je préviens tout de suite, c'est vraiment pas pour tout le monde.
C'est même pour les méga fans, c'est presque un peu spécifique.
Oui, c'est pour les méga fans. Donc, c'est un bouquin qui s'appelle « Mythes et masques, les fantômes de John Carpenter ». Écrit par...
Alors, laisse-moi deviner, ça parle de carnaval.
Voilà, exactement, okay. et d'insectes nuisibles. Et... Donc voilà, c'est pour la conservation de vos costumes dans les placards, surtout, faites attention. Donc ça parle de John Carpenter, énorme réalisateur de films fantastiques, mais pas que. Film d'horreur aussi, et puis film pas fantastique. C'est un livre qui est vraiment à réserver aux fans, parce que les deux auteurs, Luc Lagier et Jean-Baptiste Torret, qui sont eux-mêmes critiques, réalisateurs et très érudits en cinéma, ont rassemblé dans cet ouvrage d'abord une interview de John Carpenter, et après ont analysé chacun des films et aussi les thèmes développés dans la plupart des films de Carpenter, comme la peur par exemple, et autres. Et c'est très 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 fouillé, c'est même parfois on arrive parfois dans de la philosophie ou de la psychologie. Donc c'est vraiment, faut s'accrocher un petit peu, mais c'est vraiment très intéressant pour qui aime John Carpenter, et moi je suis un énorme fan. Alors c'est un livre que l'on trouve très difficilement, puisque les éditions Dreamland éditeurs n'ont pas tiré énormément d'exemplaires. Il coûte assez cher à l'achat, je préviens tout de suite.
D'accord.
Faut y aller, quoi. Moi, je l'ai trouvé sur Amazon à l'époque, je l'ai payé quelque chose comme 60 ou 70 euros.
Ah oui, d'accord.
Faut vraiment être fan.
Du
coup, c'est un peu ma question. C'est vraiment pour les fans de John Carpenter uniquement, ou est-ce que c'est le genre de truc qui te raconte l'histoire du cinéma de genre des années 80 aussi, pour les gens qui sont de cette époque ou...
En fait, ça le resitue dans son époque, puisque John Carpenter, il y avait toujours aussi tout un aspect sociologique et politique dans ses films qui ressortait. Donc ça fait ressortir tout ça, et aussi évidemment tout ce qui est filmique, hein, tout ce qui est technique, etc. La manière dont il l'exprime, à savoir que John Carpenter a fait beaucoup de remakes, en fait, puisqu'il était très inspiré par les vieux films, les vieux westerns qu'il avait vus, les Howard Hawks, etc. Et beaucoup de ces films qui, comme ça, à première vue, ne ressemblent pas à des remakes, en fait, sont presque des remakes, en tout cas dans l'esprit, de grands films beaucoup plus anciens. Et c'est vraiment extrêmement intéressant. Il y a quelques passages ardus, je vous l'avoue. Moi, j'ai dû m'accrocher parfois. Ils vont vraiment très très loin, mais ça reprend vraiment tous les films, toutes les thématiques, et c'est vraiment vraiment très intéressant pour qui aime John Carpenter et qui aime le cinéma.
D'accord. Voilà.
Donc, à réserver aux fans, parce que le prix est, enfin, moi je trouve très élevé. Moi je me le suis fait offrir. Hein.
Et Noël approche.
Voilà, Noël approche.
Folle la guêpe. Hein.
Voilà, oui, à ce prix-là, ça fait un peu mal. Donc, mais c'est vraiment, vraiment très, très, très intéressant. Je pense le meilleur bouquin sur John Carpenter qui existe à l'heure actuelle.
Oui. Et John Carpenter, évidemment, on l'a pas précisé, mais c'est un réalisateur tout à fait mythique.
Oui. Il a fait Halloween, qui a lancé toute la vague du slasher, par exemple. Il a fait des adaptations de Stephen King. Il a fait Christine, par exemple. Il a fait le génial un de ses premiers films, un vrai film, c'est Asso, qui est formidable. Et
Tu sais quoi, c'est presque, à mon sens, tu dis tu te l'es fait offrir, je pense que c'est pas mal pour un cadeau de Noël, en fait. Si vous voulez faire un beau cadeau de Noël...
Faut s'y mettre à plusieurs, hein, parce que...
Ouais, ça dépend, enfin, 60 euros, c'est pas non plus la mer à boire. Si c'est un cadeau pour, je sais pas, ton frère que t'aimes beaucoup...
Ah oui, voilà, si c'est pour la famille... Oui.
Ah bah oui, non, c'est pas pour un mec que tu rencontres dans la rue, c'est sûr. Mais ouais, peut-être en cadeau de Noël, ça peut être pas mal.
Oui, lisez-le, d'accord. C'est vachement bien.
Super, donc on rappelle le titre, Mythes et masques, les fantômes de John Carpenter.
Voilà, de Luc Lagier et Jean-Baptiste Torret.
Merci Olivier. Christophe.
Je t'en prie, Patrick.
Eh bien, pour terminer, je vous propose de terminer en musique.
Ah, oh, c'est une excellente idée.
Eh oui.
Si je vous Est-ce dis, que tu as ton iPod près de toi ?
Non, non, malheureusement.
Bon, donc
non.
On va pas jouer de la musique.
Non, 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 non. Les garçons, si je vous dis Jack White, vous voyez qui c'est ?
Strip, strip,
éléphant,
les strips, les strips, les strips, les strips blanches.
Les white stripes.
Les white stripes, évidemment, vous pensez tout de suite aux white stripes si je vous dis Jack White. Mais est-ce que vous savez
Enfin, moi j'ai vu les notes de l'émission, donc je sais à quoi tu penses en fait.
Mais est-ce que vous savez que Jack White, il a fait plein de side projects.
Bah oui.
Quoi?
Et oui. Quoi? Ouais, mais, ouais, ouais. Il a fait des infidélités.
Raconte-nous.
Il a fait des infidélités à sa petite sœurette. Donc, et là aujourd'hui, je vais vous parler d'un de ses nombreux side projects qui s'appelle The Raconteurs. Voilà, les Raconteurs. Les Raconteurs, c'est un groupe qu'il a créé en 98. Avec trois autres amis musiciens qui sont tous d'ailleurs comme lui de Détroit.
Et donc c'est avant les White Stripes ou
Non, c'est dans la foulée.
D'accord. Dans Parce que j'avais l'impression que les White Stripes c'était presque début mi-2000 quoi. Mais...
Non, je crois que c'est.
D'accord. Ok, autant pour moi.
Voilà. Donc avec trois amis donc tous issus de la scène rock de Détroit, il a créé ça les Raconteurs. Donc il a mis Brendan Benson à la guitare, Jack Lawrence à la basse et Patrick Keeler à la batterie.
Alors, Patrick Keeler, c'est quand même un nom sympa.
Eh ouais. Mais ça s'écrit avec deux E.
Oh, ah.
Ouais, c'est Keeler.
Déception.
Keeler. Comment vous décrire la musique des Raconteurs? C'est très difficile parce que c'est un gigantesque melting pot, en fait, la musique des Raconteurs. Vous prenez une petite dose de rock oldie façon, avec des guitares assez présentes, mais pas du tout bourrine, hein. Je précise, c'est pas du gros bourrin. C'est un joli petit son de guitare un peu rétro dans le style. On oscille entre les Beatles, les Stones, un peu de Cream, le groupe de Clapton. On rajoute une petite touche de Led Zeppelin, et puis un petit côté folk aussi avec Creedence Clearwater Revival, ou encore du Cat Stevens. Vous voyez ce que ça peut donner à peu près déjà dans les
pas
sonorités.
Pas tout à fait, mais oui, un petit peu, oui.
Bon, vous mélangez tout ça et ça vous donne déjà une petite idée de l'univers sonore. Et puis sur certains titres, vous allez halluciner, comme moi j'ai halluciné, parce qu'ils se sont permis des choses totalement folles. Ils ont, par exemple, sur certains titres, ils ont mis de la musique cajun.
D'accord.
Donc par exemple, vous voyez le film des frères Cohen, Oh Brother.
Oui, bien sûr.
Bon, et ben vous prenez le groupe de George Clooney avec ses potes dans Oh Brother, vous les mettez en plein 21e siècle, et ben vous avez le son des Raconteurs sur certains titres.
D'accord.
Et le pire, c'est que ça vous fait bouger. Enfin, c'est juste hallucinant parce que c'est pecno possible, mais c'est génial. Ces garçons ont une espèce de talent qui fait que tout ce qu'ils touchent, ils le transforment en or. Je sais pas comment ils font. Donc voilà. Les riffs sont hyper accrocheurs. Ça, c'est clair. Jack White, il suffit d'écouter les White Stripes, il sait écrire des chansons, ça, il y a pas de problème.
Oui, c'est sûr que là, on parle vraiment d'un vrai artiste, quoi.
Ouais. Pour le coup, c'est un vrai songwriter. C'est quelqu'un qui sait immédiatement trouver le riff qui accroche, la rythmique qui va bien, les harmonies vocales qui font que tout le morceau décolle. Et donc, les Raconteurs, ils ont deux albums à leur actif. Un premier qui s'appelle Broken Boy Soldiers, qui est sorti en 2006. Avec un titre qui les a fait connaître, qui les a tout de suite propulsés en haut des charts, qui s'appelle Steady As She Goes. Et moi, je vous conseille vraiment de découvrir les Raconteurs par ce titre-là, parce que c'est assez emblématique de leur style. Mm-hmm. Et c'est un titre qui est assez accessible et vraiment, vraiment très, très bien foutu. Et puis, en 2008, ils ont sorti un deuxième album qui s'appelle Counselors of the Lonely, qui lui est encore plus avec des influences très très différentes, avec un son un peu plus oldie, et justement sur lequel on trouve ces morceaux un peu cajun comme All Hold Enough, ou un morceau le morceau éponyme, tiens, Counselors of the Lonely, qui a d'ailleurs été repris sur Vampire's Diary, la série. Et il y a aussi un autre titre sur cet album qui s'appelle Solitude Solution, qui a servi de générique au film Bienvenue à Zombieland, que je n'ai pas vu, mais je pense que Olivier, tu as dû le voir, toi.
Oui, oui, oui.
Toi qui es fan de ce genre de cinéma.
Le film était très sympa. Ouais.
Voilà.
Mais si on doit en choisir qu'un seul, alors tu penses que c'est Broken Boy Soldiers qu'il faut,
alors,
par lequel il faut rentrer dans leur univers.
Si on devait en choisir qu'un seul, choisissez le premier, Broken Boy Soldiers, qui sera une très très bonne introduction à l'univers des raconteurs. Et à mon avis, une fois que vous aurez fini d'écouter Broken Boy Soldier, vous courrez chez votre disquaire ou vous vous précipiterez sur iTunes pour télécharger Consolers of the Lonely et vous reprendrez une deuxième claque parce que vous n'en aurez pas eu assez.
D'accord.
Voilà.
Bah écoute, oui, ça me dit bien. Moi, je
franchement,
pense que je vais.
Si vous aimez les musiques très qui mélangent plein d'influences comme ça. Si vous aimez Beck, par exemple, vous allez adorer les Raconteurs.
Ouais.
C'est obligé.
Alors,
sinon,
Beck, le problème de Beck, c'est qu'il a quand même une palette extrêmement large.
Ouais.
Donc, mais c'est vrai que de très bons.
Moi, j'aime bien Beck, mais il est un peu, je sais pas comment dire, gimmicky. C'est-à-dire, il fait des trucs genre pour le principe de faire des trucs bizarres,
oui,
presque.
Oui.
Mais...
Alors, la comparaison s'arrête là parce qu'en fait, Beck a effectivement beaucoup plus de trucs. Il mélange encore plus de choses et c'est pas toujours très heureux. Les Raconteurs, c'est quand même toujours. Il y a quand même un style. Il y a quand même un style qui est quand même du pop rock, mais avec des touches comme ça saupoudrées de temps en temps de musique qui sortent d'ailleurs. De vieux folklore américain et tout ça et des sonorités dont on n'a pas l'habitude c'est des gens par exemple qui n'hésitent pas à mettre en plein milieu de d'un morceau rock ils mettent du banjo.
D'accord.
Et tu te dis c'est mais vous pouvez pas mettre du banjo les gars c'est juste un instrument de redneck.
C'est sacrilège.
Quoi, vous faites quoi là vous faites un
c'est la foire à la saucisse
ouais,
là.
Vous nous faites un remake de Deliverance. Et ben non en fait c'est super bien ça se marie très bien. Juste une petite
bien,
anecdote
oui.
Amusante pour terminer. En Australie les Raconteurs ne s'appellent pas les Raconteurs. Savez-vous pourquoi?
Parce qu'il y a déjà un groupe qui s'appelle Les Raconteurs.
Exactement. Il y avait déjà un groupe, en fait, au moment où Les Raconteurs, donc le groupe de Jack White s'est sorti, il y a déjà un groupe qui existait en Australie, qui s'appelait The Raconteurs, qui leur réclamait des millions de dollars pour pouvoir sortir leurs albums en Australie. Et bien, qu'à cela ne tienne, Jack White et ses amis se sont rebaptisés spécialement pour l'Australie, The Saboteurs. Et voilà.
Pas mal. Ok, merci.
Voilà, eh bien, je vous le conseille vraiment. Ça fait vraiment partie de deux albums qu'il faut, à mon avis, avoir dans votre discothèque si vous aimez le pop rock.
Moi, je
Broken
les ai.
Boys Soldiers.
Ouais, et Consolers of the Lonely.
Super. Merci voilà. Christophe. Si vous avez bien suivi et que vous connaissez le principe de l'émission, vous avez bien compris que j'ai donné mon positron, Olivier a donné son positron, Christophe a donné son positron. Ça doit être la fin de l'émission. Eh bien non, figurez-vous. Nous sommes mi-novembre, mon voyage au Japon est à quelques jours, peut-être même que si vous téléchargez l'épisode un petit peu tard, je suis déjà au pays du soleil levant. Et en fait, ce que je voulais faire, c'était que pour mon positron, j'aurais voulu avoir un groupe de rock... enfin, pardon, pas un groupe d'Europe, mais de la musique japonaise de l'époque où, pour ceux qui ne savaient pas, j'ai habité au Japon pendant quelques temps, de l'époque où j'habitais au Japon. Le problème, c'est que c'est des groupes un petit peu obscurs et un petit peu anciens. Et donc, j'ai cherché partout comme un fou pour essayer de trouver ça. Et j'ai pas réussi. Mais je me suis dit que je voulais quand même vous en faire profiter un petit peu. Donc je vais en parler en deux secondes et je vais vous faire écouter un petit extrait. Le
premier, je croyais que tu allais chanter.
C'est un petit peu dur parce qu'en l'occurrence
au death metal japonais.
Vas-y. Et je pourrais presque hein, c'est des
perruque hirsute et
mais, tu sais boots. C'est des groupes que j'ai tellement écouté, enfin c'est un groupe que j'ai tellement écouté que je pourrais. Mais en l'occurrence, c'est un groupe de rap japonais et on pourrait. Enfin, c'est très étrange d'entendre du rap japonais, mais bah, je vais vous le faire écouter, ça va parler de soi-même, et puis je vais vous en dire un peu plus après. Allez hop, c'est parti. Ladies and gentlemen, and now... Je vois la tête, hein, vous ne voyez pas. Mais... Alors là, c'est le refrain.
ージのやり方で実力があからさまにチャンピオンテレトカッサラそうよミスターローじゃないの超ヤバいの一切容赦ないぞさ打ちかますかドキダマッチはここはプロのステージ目的果たすやしか
登れない2 secondes de chanter avec là donc je vais arrêter donc vous voyez c'est un petit peu étrange le rap japonais simplement parce qu'on n'a pas l'habitude mais c'est hyper entraînant c'est bon, c'est des gens un petit peu gentils hein. Les rappeurs c'est pas vraiment des, oui. des gangsters comme
de
aux
quoi
US
ils parlent, là,
bah, là ils disent c'est kore ga ore tachi no yarikata c'est this, that's how we do it c'est la manière dont on le fait donc ils disent ouais on est des rappeurs et on est trop forts et on fait machin et c'est comme ça qu'on te fait bouger et tout bon et en l'occurrence c'est un groupe qui s'appelle Rapagalia super envie super plein de rap enfin c'est difficile à traduire Galia mais et le morceau s'appelle Do the Galia Thing et c'est donc un des nombreux groupes de rap japonais qui existent pour ceux qui savent quand on parle de musique japonaise on a plutôt tendance à parler de soupes super produites genre des boys band et des girls band il y a assez peu de vrais artistes authentiques au Japon. Il y en a, hein, évidemment, faut pas te faire trop de généralités. Mais dans le rap, il y en a quelques-uns qui sont plutôt marrants. Et là, en l'occurrence, je voulais juste vous faire un tout petit peu profiter de cette partie de l'univers du Japon qui est pas forcément commun. Si vous réussissez à trouver le groupe, encore une fois, il s'appelle Rapagalia. Je vous mettrai le nom dans les notes de l'émission. Je vais même essayer de vous trouver le nom je sais pas si... Je mettrai un lien vers la page japonaise, comme ça vous pourrez trouver le nom en kanji et faire des recherches sur Amazon Japon pour essayer de le choper si ça vous intéresse.
C'est une influence côte est des États-Unis avec la flûte.
Ouais. Un petit peu. Bon, c'est un groupe des années 2000, hein. C'est au tout début 2000, donc forcément, ils avaient d'autres albums un peu plus tard, mais celui-là, c'est celui que je connaissais. Donc voilà, ça s'appelle Rapagalia, et c'est une partie du Japon que je voulais vous faire découvrir, pendant que moi-même, je suis pour mon voyage de noces au Japon, en train de manger des chukaman et de rentrer dans les magasins d'électronique et les salles d'arcade, et d'imposer ça à ma femme, qui sera intéressée pendant à peu près 2 minutes et qui va ensuite me dire bon c'est bon on en a marre bon, là, de tes conneries de... Voilà. Donc voilà et c'est comme ça qu'on conclut l'émission. Je vous dis tout de même que vous pouvez trouver donc des détails sur tous les positrons qu'on vous a recommandés aujourd'hui sur le blog de l'émission. C'est sur frenchspin.com. Vous y retrouvez aussi les détails des autres émissions que je fais, dont Upload, dont vous aurez un nouvel épisode la semaine prochaine puisqu'on alterne entre positrons et Upload chacun sur leur flux RSS séparé évidemment. Pour vraiment terminer l'émission, je vais demander, comme toujours, à Christophe et Olivier de nous dire où on peut les retrouver sur Internet. Olivier.
Alors, on peut me retrouver sur la plupart des réseaux sociaux sous le nom d'In The Blix, I-N-T-H-E-B-L-I-X.
Qu'est-ce que ça veut dire, In The Blix?
Vous voulez vraiment que je vous raconte l'origine? Ça peut aller très vite. Hein. En fait, Blix, c'était un personnage que j'incarnais dans Donjons et Dragons, le jeu de rôle, qui était un survivant. Et en fait, dans les années 90, il y avait un peu un gimmick dans les chansons de dance qui était In The Mix. Et à chaque fois qu'on jouait, mes amis disaient In The Blix. Et quand il a fallu que je trouve un pseudo pour m'inscrire sur le forum de No Watch. Et ben voilà. Hop.
Voilà. Comme quoi.
Exactement. Donc voilà, donc vous me retrouvez sur les réseaux sociaux, In The Blix, dans Split Screen avec Hervé et Gilles, mes superbes co-présentateurs géniaux, ainsi que
physiquement, tu veux dire, qu'ils sont
Physiquement, ils sont très attirants, mais
la nature.
Oui, mais ils sont très très attirants. On a le côté méditerranéen chez Gilles et le côté un peu slave chez Hervé. Et donc à propos de Slav, donc il y a aussi avec Elena et Guillaume et Tamala dans la voix dans la tête et aussi à l'écrit sur le dailymars.net pour le cinéma.
Super, merci Olivier. Christophe.
J'espère qu'il se lave tous les jours. Eh bien moi, vous pouvez me retrouver et mes jeux de mots pourris sur.
J'ai pas bien compris celui-là. J'ai pas relevé. Mais
non,
son
côté slave tous les jours.
Ah ok. Voilà. Ok. Ouais, bon, faut l'expliquer, mais il est marrant une fois expliqué.
Ouais, bah voilà. donc vous pouvez me retrouver, pareil, sur tous les réseaux sociaux possibles et imaginables, et par exemple sur Twitter @cponsole. Et puis vous pouvez me retrouver toutes les semaines derrière le micro de WAC, ex Will & Co, avec mes petits camarades et William à la tête de cette joyeuse équipe. Voilà.
Super, voilà. Merci Christophe. Et avant de nous quitter, on vous rappelle que au début de cette émission, au début de cet épisode, on a parlé de d'animateurs préférés. Je vous encourage encore une fois à venir sur le blog de l'émission, donc frenchspin.com, pour nous dire qui était votre animateur préféré sur cet épisode. Pouvez donc choisir Christophe, Olivier.
On va se faire pourrir, Christophe.
Ou Patrick. Ouais. Mais non, mais pas du tout. C'est un simple sondage d'opinion. Parfaitement
les dés
honnête,
sont pipés, je dis.
Sachant que si jamais c'est pas moi l'animateur préféré, bah il y aura
vous
plus
d'épisodes.
C'est ça.
Tout orienté.
Il y aura juste une modération des commentaires. Voilà,
c'est ça. Exactement. C'est ça. Je contrôle.
Et après,
à
vous
peine,
votez en votre âme et conscience.
Tout à fait. Bon, on vous souhaite deux excellentes semaines pendant que je suis en train de manger des ramen. Et on vous dit à la fin du mois de novembre. Ciao à tous.
Ramenez-en.
Ciao, ciao.